tous et à toutes, bienvenue dans Son Bâtard sur le monde de Radio Canu 102.2 FM. Il est 16h et on ouvre le bal pour ce 44e épisode de Mix Critique en direct. Aujourd'hui, Mix 44 s'intitule Parasite tout puissant et va explorer tout ce qui grouille dans le sous-sol, tout ce qui se jette, tout ce qui pullule, le déchet, c'est la vie, et parasite de tout poil. Unissez-vous pour ronger le capital, consommer, jeter, dépenser pour la survie des espèces du dessous, à bas l'hygiène des villes. Cette émission est un remix des déchets, justement, de l'émission Phonoscopie, Radio Panique à Bruxelles, et d'une incroyable émission intitulée Décimer les limaces, diffusée à Canal Sud, à Toulouse. On commence tout de suite, les animaux, les hommes, les dieux et les trucs au milieu.
Thank you. 7,3 milliards d'humains en 2015, dont la moitié en zone urbaine. Deux fois plus dans 30 ans. 5 milliards de rats sur Terre, dont presque la moitié en Chine. Aucun en Antarctique ni en Alberta au Canada. Ratio de 1 rat par humain à New York, le double ou le triple à Paris. Descendance moyenne de 5000 rats par couple et par an. Dix quintillions d'insectes vivant sur la planète, 1,3 million d'espèces d'insectes recensées, de 6 à 30 millions estimées. 20 000 nouvelles espèces découvertes chaque année. Poids total, 300 fois supérieur à celui de tous les humains. Soit 300 fois 350 millions de tonnes. Un occidental moyen produit son poids en poubelle tous les 2 à 3 mois. Soit 2 kilos par jour. 1,3 milliard de tonnes d'ordures produites par an sur la planète. Le double dans 15 ans. 10 cm, taille maximale de la blatte. Moins de 1% des cafards interagissent avec les hommes. 60 000 hot dogs abandonnés, consommés par les arthropodes chaque année autour de Broadway. Soit environ une tonne.
J'ai toujours été intéressée par la marginalité. Je ne sais pas si ça tient à ma taille, à vrai dire, mais enfin, les choses proches du sol. C'est-à-dire regarder tous les déchets par terre, ou une certaine myopie, c'est aussi Lewis Carroll avec Alice qui change de taille, enfin, les petites choses que personne ne voit. Le cafard, ça a été une opportunité qu'on m'a offerte et que personne ne voulait saisir. Pour moi, c'était l'objet parfait. Moi, je trouve que c'est un sujet. Il est un sujet parce qu'il envahit l'imaginaire. Il devient le sujet de quelque chose qui se confronte à vos propres exigences de vie. Les gens, quand ils ont des cafards chez eux, ils lui donnent une personnalité, ils lui donnent un pouvoir sur vous. Il vous envahit. Donc il y a toute une activité qui consiste à nommer l'animal et à lui donner une, ce qu'on dit en sciences sociales, une agentivité, c'est-à-dire une capacité d'agir. Tous les animaux, en fait, sont comme ça. Par contre, ils occupent, si j'ose dire, une niche différente. C'est-à-dire que le cafard, ça ne sera pas la même chose que le chat. Le chat, c'est de l'ordre du domestique. Le cafard, ça renvoie au troupeau qui vous envahit, au sombre. Alors, bon, il y a beaucoup à dire sur la couleur du cafard. Vous savez, le terme vient de l'arabe. Ça veut dire le mécréant, celui qui fuit. Le nom commun, cafard, vient donc d'une observation, on peut dire, des mœurs naturelles de l'animal, puisque c'est un lucifuge, il fuit la lumière. Et du coup, eh bien, il acquiert ce pouvoir qui en fait une personne, un sujet d'intention, même si ses intentions lui sont prêtées et sont fantasmées. Hein. Il y aurait un nid sous les immeubles, les cafards grimperaient dans les conduits, ils iraient plutôt chez certaines personnes que chez d'autres, parce qu'on associe beaucoup le cafard à l'étranger, en ayant observé qu'il aime bien les endroits où il fait chaud. Donc il y a vraiment toute une agentivité qui est donnée à l'animal. C'est vrai qu'il y a dans l'idée de ces animaux et leur place dans la ville, la question du filtre que constitue l'urbain. Pourquoi certaines espèces sont désirées et d'autres non? Et le cafard figure parmi les espèces, bien évidemment, non désirées. Alors, ça pose des problèmes de santé, d'accord, ils sont tout relatifs par rapport à d'autres animaux, mais je crois que ça participe plus fortement, véritablement, à la question du contrôle de la ville. Et ça, ça remet en cause, finalement, la question de l'hygiène, et de l'hygiène publique, de l'hygiène collective, et donc de la capacité d'accéder à ce désir d'hygiène, qui était un désir dans l'urbanisme, qui agite les couches éclairées, les couches sociales éclairées, depuis au moins le 19e siècle. Donc c'est une longue histoire. à la fois de l'éducation des populations, mais aussi celle de la désinfestation de la ville. Par rapport aux insectes, mais par rapport à tous les animaux en ville, d'une certaine manière, on ne peut pas décrocher cette histoire de l'invention de produits destinés à les tuer. Je veux dire, il y a une concomitance entre la mise en place de cet ordre et la mise en place de technologies de pesticides, etc. Avec tout ce que ça veut dire en matière de tuerie. On peut se poser la question de quel est l'ordre qu'on invente là et à quel frais.
Recette pour éliminer les limaces. N'y voyez aucune analogie trop simple. Je sais que la limace est une espèce à utiliser métaphoriquement pour parler de nos sociétés. Alors je sais qu'on cherche à éradiquer aujourd'hui des limaces, mais un limaçologue éclairé sait que ce n'est pas si simple. Qui sont les limaces et qui sont les exterminateurs? Et n'est-on pas toujours la limace d'un autre?
Météo.
Un changement climatique tous les 10 à 20 000 ans a pu engendrer une sélection naturelle des humains capables de s'adapter. Par exemple, un plus gros cerveau nous permet de résoudre des problèmes causés par une pluviométrie changeante et de fabriquer différents outils pour exploiter ces variations. D'après Rick Spott du Smithsonian Institute de Washington, cette faculté fait de l'être humain une des espèces les plus invasives de la planète.
Jardinage.
Les fourmis ont inventé l'agriculture il y a 50 millions d'années. Ce qu'a découvert une équipe de l'université de Copenhague, c'est que ce qu'elles cultivent suit le même changement génétique que notre propre agriculture, la polyploïdie. C'est-à-dire que, une fois cultivés, ces plants ont au minimum 3 copies de chaque chromosome au lieu de 2. Chez nous, ça va être le blé, les bananes, le tabac, et chez les fourmis, ça va être les champignons. Dans les deux cas, les plantes sont devenues plus larges et plus robustes. Les chercheurs supposent un lien direct entre cette capacité à modifier génétiquement ses propres ressources et les fortes populations de fourmis et d'hommes.
envahit qui?
Ce qu'on trouve comme espèces au sein de la ville, ce sont généralement des espèces généralistes, justement, c'est-à-dire des espèces à large niche écologique qui peuvent profiter de l'ensemble des avantages offerts par la ville. Le cafard, par exemple, c'est une espèce tropicale qui est venue en ville parce que c'est l'écologie parfaite. Humide, chaud, protégé de la saisonnalité, en tout cas en intérieur. Ce sont nos écologies modernes qui ont fabriqué aussi les populations animales qui y vivent. On le sait mieux maintenant depuis une dizaine d'années qu'on travaille sur ces questions. Cependant, on ne sait toujours pas comment vivre avec ces animaux. Ça me frappe. Par exemple, j'ai travaillé sur un programme qui s'appelle Tram Vert, qui vise à relier les espaces verts ensemble. Et en fait, en reliant les espaces verts, il y a d'autres espèces animales qui vont venir au cœur des villes. Et comment vont s'opérer ces rencontres ? C'est encore un non-lieu, c'est-à-dire quand on pense ça en termes d'aménagement, on pense toujours comme si c'était de l'espace vert, de l'équipement. Mais c'est du vivant, c'est pas de l'équipement. Avec la question du vivant, on réintroduit la question de la mort, du cycle, des maladies, je vous ai dit, et tout ça. J'avais fait des enquêtes aussi en ce qui concerne les pigeons. Combien de fois n'est pas revenue l'expression « vol de bactéries » ? C'est-à-dire que les gens voient un vol de pigeons, ce qu'ils voient, c'est pas des animaux, c'est des maladies. Il y a quand même quelque chose dans la ville qui transforme la vision de l'animal en une vision de mort et de maladie. Je dirais que la ville et l'urbanisme, ça cherche à figer, comme dans la résine, les êtres vivants. C'est un espèce d'état de décoration. On retourne lentement à l'idée que la nature est vivante. Elle n'est non plus de l'espace à gérer, mais du vivant avec lequel on doit cohabiter. Et ce vivant est processuel. Ce vivant est imprévu. Ce vivant prolifère. Et donc, il faut venir au terme dans notre culture de quelque chose de l'ordre d'une transformation importante. C'est de natura fusis, quoi, d'une certaine manière. C'est de ce processus dont on ne pourra pas maîtriser tous les tenants et les aboutissants. Ça, c'est clair. C'est pas encore certain qu'on arrive à sortir, si vous voulez, de l'emprise et de l'utopie technologique, hein, d'une ville hermétique, d'une ville close à tout ce qu'elle ne déciderait pas qui serait de son ordre, de son régime. En fait, c'est des régimes urbains qui sont des régimes urbains totalement maîtrisés, ce qui n'est pas le cas de tous les régimes urbains. Par contre, il y a une chose qui est toujours remarquable, c'est que dès que ça pullule, ça pose problème. L'écureuil ici qui bénéficie d'un régime de sympathie, par exemple au Canada, il pose problème. Enfin, je veux dire, il est vu un peu comme une peste aussi. Vous voyez que là, c'est une question de nombre purement. Enfin, je veux dire, c'est le sentiment de l'invasion. C'est la peur de l'invasion. Ils nous survivront. Il y a à la fois la peur dans l'espace, c'est-à-dire le sentiment d'être dépassé par le nombre. Et puis, il y a la peur dans le temps, c'est-à-dire de finalement d'être mortel relativement à des espèces. Donc, comme elles ne sont pas individuées, finalement, elles sont immortelles quelque part.
Près des plants de salade, il faut enterrer des barquettes d'aluminium, comme des piscines. Les bordures au niveau de la terre. Il faut les remplir de bière jusqu'en haut. Les limaces adorent la prière. Autant que les amateurs de foot. Elles sont moins bruyantes, mais pas moins dangereuses quand elles sont en bande. Le lendemain, les barquettes ne sont plus que des mers de cadavres. Les limaces se sont noyées dans la bière. La brune et la blonde se valent. Il n'est donc pas utile d'utiliser une bière de qualité, du moment qu'elle est alcoolisée. La bière les attire. Elles viennent aussi des autres jardins. On le sait peu. Elles adorent se saouler la gueule. L'odeur commence par les enivrer, puis Une fois qu'elles trempent dans leur bassin moussu, elles ajoutent leur bave et c'est la belle mort dans un panaché royal.
Thank you.
sans bâtard. Parasite tout puissant. Et rongeur en tout genre.
Il faut savoir qu'il y a une répartition au niveau spatial, je veux dire dans la profondeur du sol urbain, si j'ose dire, entre différentes espèces de souris et de rats. Alors, ces espèces-là, elles sont tolérées partiellement, parce qu'on ne le voit pas. Si elles remontaient toutes à la surface, et vous remarquez que souvent, dans les films de science-fiction, de catastrophes, les rats remontent à la surface, c'est toujours un fantasme qui est activé. Les estimations disent plus de 11 millions de rats sous Paris. Donc 11 millions de rats, c'est pas facile à tuer, tout d'abord. Deuxièmement, c'est quand même des mangeurs de déchets. Les animaux, ils viennent en ville pour manger. Donc ce que font les rats dans les égouts, c'est que finalement, ils jouent le rôle des boueurs. De ce point de vue-là, on peut dire que les rats ont un rôle, mais je ne crois pas que ça soit pour ça qu'ils soient tolérés. C'est un vieux mythe, ça, l'idée qu'on puisse se débarrasser de la présence animale. Je dirais que c'est un vieux mythe parce que c'est oublier que nous-mêmes, on est un milieu pour des centaines de vies, voire des millions de vies, qui vivent avec nous en cohabitation. Donc notre corps est lui-même déjà la représentation de cette cohabitation, d'une certaine manière. Malgré le fait que l'écologie se soit peu ou prou rentrée dans les têtes, dans les mœurs, etc., la peur de l'animal, du grouillement, demeure une peur extrêmement vivace. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'échappera peut-être pas à l'utopie totale, à savoir finalement une utopie totalement hermétique et privée de ses dimensions autres qu'humaines, si j'ose dire, pour pas dire animales. Je crois que la balance est plutôt en train de tomber du côté de l'utopie technologique que du côté de l'utopie naturaliste.
ont construit un rempart solide pour empêcher l'ennemi de passer, du style muraille de Chine. Les limaces portent sur la tête le casque des guerriers mongols. Si on veut les arrêter efficacement, on doit bloquer chaque passage possible par une large bande de matière assez épaisse qui les décourage d'avancer. Les limaces bavent pour avancer. Si elles ne mouillaient pas le sol sous elles, elles ne parviendraient pas à glisser. Même chose chez les escargots et les hommes en général qui salivent lorsqu'on leur met une belle carotte sous le nez. La barrière doit couper chez elles le robinet des sécrétions. Plus de bave, plus de mouvement. Il ne leur reste plus qu'à rebrousser chemin. Adieu salade.
Les rêves ne se vivent pas de la même façon tous les jours. Mais c'est la première chose, c'est l'odeur. Ça sentirait bon. Il y a quelque chose de l'ordre de l'odeur qui est très, très, très profond. Par exemple, quand on va à la campagne et qu'on sent cette odeur d'humus mouillé, c'est extrêmement agréable. Alors, probablement pas pour tout le monde, mais ça, c'est une première chose dans ce rapport à la ville, ça serait l'odeur. Ça serait ces odeurs-là. Après, il y aurait les sons. Et c'est vrai que la question du bruit est aussi quelque chose d'extrêmement charnel. Il y a dans cette ville ressuscitée dont je rêve, quelque chose qui permet au corps de mieux exister. Ça, c'est absolument clair. Je veux dire, au corps d'éprouver du plaisir. Et c'est marrant parce qu'on avait fait des enquêtes il y a un certain moment, en essayant de typologiser un peu les sortes d'habitants, pour voir comment les gens habitaient et comment ils se définissaient dans leur rapport justement à la nature. Et il y avait cette catégorie qui se détachait. Alors il y a des gens qui sont des citoyens, c'est-à-dire qui entrevoient l'espace comme une espèce d'espace politique ou de concentration sociale et qui vont dans les assos. Il y a les consommateurs, ceux qui voient que la culture, on va consommer du cinéma, etc., etc. Et il y a les habitants, mais ils sont assez rares dans les grandes métropoles. Alors les habitants, c'est un peu la catégorie que j'avais définie, c'est des gens qui marchent, qui éventuellement jardinent, qui ont un rapport charnel aux choses. La question du corps par rapport à la question de l'écologie, elle est quand même extrêmement centrale. Donc d'abord, je la vois comme un lieu charnel, un lieu possible d'un point de vue charnel. Et puis après, c'est vrai que dans le rapport à l'animal, j'ai toujours eu personnellement quelque chose de l'ordre de la curiosité pour le vivant. J'adore observer, j'adore regarder. Je peux regarder comme ça pendant des heures, enfin, comment une abeille va se déplacer, comment une fourmi, qu'est-ce que ça fait, quoi. Comment ça s'agite, quelle intention ça a, comment ça entrecroise des chemins. Et ça, pour moi, une ville du futur, c'est aussi un espace où on reconnaît ces différentes vies entremêlées. Et on leur donne la possibilité de coexister. Pas seulement à l'individu près, mais du point de vue de leur logique. Ce sont des logiques différentes, la logique de l'humain du point de vue du vivant, c'est pas la même que celle de la fourmi. Mais c'est des logiques qui peuvent coexister. Ça demande des espaces, éventuellement des espaces réservés, des espaces non réservés. Ça demande une domestication de sa propre peur. J'ai souvent pensé que le rapport à l'animal, c'était un rapport de caresse, parce que je croyais que c'était dans Montaigne qu'on trouvait ça, j'adorais Montaigne, et qui parlait de son cheval en termes de caresse, en disant, pour connaître l'animal, il faut le caresser, c'est-à-dire contourner sa croupe, en dessiner mentalement, par le geste, quelque chose de l'importance dans l'espace. Et en fait, ça n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Mais j'ai souvent pensé ça, qu'il faut se représenter l'animal vraiment comme un corps. Et c'est son miracle. C'est notre miracle. Je ne sais pas comment vous représentez vous-même ou comment chacun les personnes se représentent. Moi, je me suis toujours représentée comme un ver de terre, personnellement. C'est-à-dire que c'est toujours un miracle de voir, par exemple, le ver de terre aller vers la lumière. Comment le ver de terre sait-il que la lumière est au-dessus du sol ? Ça, c'est un miracle. Et ça, pouvoir observer ça et être attentif à ces questions-là, pour moi, ça fait partie de la vie en ville du futur.
Thank you. Élection.
Les chiens seraient-ils rendus stupides par la domestication humaine? Monique Udel, de l'Université de l'Oregon, a tenté de faire résoudre un casse-tête par des chiens et des loups. 80% des loups ont réussi l'exercice contre 5% des chiens, qui, eux, se sont contentés de regarder les humains en attente d'une indication. Ça pourrait toutefois être considéré comme une meilleure capacité de cognition sociale, chaque espèce ayant développé des stratégies appropriées à leur relation aux humains.
Incivilité.
En attendant, en Espagne, les autorités ont menacé d'analyser l'ADN des crottes de chiens dans les rues et parcs de Tarragone. À l'instar de certaines villes nord-américaines, la mairie souhaite créer une base de données ADN de 2800 chiens enregistrés pour identifier et faire payer les contrevenants.
Et maintenant, pour la première fois au monde, tu vas pouvoir entendre et apprendre de petites chansons spécialement destinées à ton chien. Tu verras qu'il en comprend le sens dans toutes les occasions de la vie.
Promenez, promenez, promenez dans la forêt, toutou, promenez, promenez, promenez dans la forêt, promenez, promenez, promenez dans la forêt, toutou, promenez, promenez, promenez dans la forêt.
Assis, gentil, couché, debout. Donnez la papate, donnez la papate. Assis, gentil, couché, debout. Donnez la papate, merci beaucoup.
Quand on fait couche, le toutou vient, pom pom. Quand on fait couche, le toutou vient.
Chien-chien, tout-tout-tout-tout, la niniche à chien-chien. Dedans la niche à chien, tout-tout, dans la niniche à chien-chien.
Dans la mythologie, le dieu chien côtoie le dieu hérisson, le dieu oiseau croise le dieu crapaud. C'est une fine équipe qui se promène parmi les hommes, dans leur jardin surtout. Lorsqu'on est bien luné, on leur lève notre chapeau. Le dieu top est moins apprécié, le dieu chat est notre chouchou avec le dieu chien. N'oublions pas le dieu rat, ni le dieu carabe, plus petit, mais qui ne s'en laisse pas compter. Tous seraient de parfaits alliés s'ils n'en faisaient pas qu'à leur tête. Il faudrait toujours être derrière eux pour les surveiller. Mais disons qu'en gros, ils sont efficaces, chacun dans son style, dans la guerre contre les limaces. Ce qui est bien pour les dieux, ils ne restent pas sur leurs réserves, ils ne se cachent pas derrière leurs petits doigts, ils interviennent directement. Ils s'attaquent, ils dévorent les limaces, ils les déchiquettent, ils les pulvérisent. La guerre est sans fin. Chaque jardinier balance dans la propriété d'à côté les limaces qu'il ramasse à la pelle. Le dieu jardinier, dans la mythologie potagère. Soit on est du côté des limaces, soit on est du côté de leurs prédateurs.
Une limace devant sa glace se trouve grasse et fait la grimace. Une limace devant sa glace se trouve grasse et fait la grimace. Une limace,
si j'avais des ailes, devant sa glace, je serais plus belle. Je monterai au ciel, la crie comme les coccinelles.
Si j'avais des ailes, je serais plus belle.
Je monterai au ciel, la crie comme les coccinelles.
Limace,
si j'avais des ailes,
molasse,
plus belle.
Escargot, rigolo, limace, vorace, escargot, rigolo,
comme les coccinelles.
Limace, escargot, rigolo,
comme les coccinelles.
Limace, grimace, escargot, rigolo, limace, les das, bah, escargot, rigolo.
Ah.
si l'être humain disparaît, corps et bien, comme on dit, ça ne sera pas la même chose que si son corps reste là comme cadavre pour nourrir d'autres animaux. Je veux dire, la question quand même des cadavres, vous imaginez, tout le monde mort à l'instant T, il y a des millions de cadavres un peu partout. Là, on va avoir le développement d'infestations qui vont permettre à une certaine vie de proliférer et de se développer plus facilement que si la ville est nettoyée de tous ces cadavres, de toutes ces composantes vivantes, et qu'elle est progressivement, finalement, réadoptée, réappropriée par des formes de vie qui vont progressivement, comme végétal, animal, qui vont se glisser dans la ville. D'autant plus que une fois que l'être humain est parti, s'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas d'ordure non plus. Donc il y a quand même toute une source de nourriture qui sera plus présente. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit ces animaux. Donc il faudra bien qu'ils trouvent leur nourriture quelque part. Et ce n'est pas forcément en ville, une fois que tu as éliminé l'être humain, qu'il y a des sources de nourriture possibles. À mon sens, si l'être humain disparaît, il vaut mieux qu'il laisse son cadavre derrière lui. Voilà. Si on veut refertiliser la ville, il vaut mieux jouer cette carte-là que de jouer la carte « tout disparaît, les rues sont vides ». On rêve du fait que, de toute façon, la vie survivra. Comme si, quoi que ce soit qu'on fasse, bon, on sera débarrassé de ces méchants humains qui ont agi écologiquement de manière négative, mais la vie survivra. Mais c'est possible qu'elle ne survive pas. Quand on parle de sixième extinction, on parle vraiment de sixième extinction. Donc, c'est pas ces pistes-là qui se dessinent. Sixième extinction, qu'est-ce que ça va produire ? Incapable de le dire. Et nous-mêmes, c'est un peu l'inconnu.
Trésor des îles.
son batteur numéro 44, parasite tout puissant. C'est fini.